Vous êtes bien sûr underscore à l'écoute de Radio Méga. Cette fois le mystère est entier. Que se cache-t-il derrière le sujet? Je me le demande. Après tout, c'est bon pour la santé.
C'est bon pour le moral.
C'est bon pour le moral.
Eh oui, nous sommes tout enjoués parce qu'effectivement, cette semaine, nous allons parler de santé.
Santé connectée.
Bien sûr, mais allons... Qu'allons-nous faire?
Un peu d'actu?
Un peu d'actualité.
Allez-vous. Alors, que je ne me perde pas. Les 534 façons de vous surveiller dans Windows 10. Traduction sur le framablog d'un article allemand sur un rapport de l'Office fédéral de la sécurité des technologies de l'information, le BSI.
Le créateur d'un compte Facebook reconnu comme directeur de publication. Le tribunal de grande instance de Pau a reconnu responsable des contenus publiés par le créateur d'un compte Facebook.
Le Parlement britannique considère que Facebook est un gangster numérique. Oh ! Pendant ce temps, les Américains lancent une task force pour surveiller les géants du numérique. Ouais. C'est pas en France que ça arriverait, ça. Hein.
Non. Un tribunal donne raison à l'université de Rennes 1 face à SFR à cause d'un débit minable sur leur connexion.
Nouvelle campagne de l'EFF, Fix It Already. Elle pointe ce que devraient faire les géants du numérique. Par exemple, Android devrait permettre de choisir et révoquer les permissions d'accès à Internet aux applications au lieu d'obliger à tout accepter.
Une simulation du premier navigateur web pour les 30 ans du web, le CERN,
le CERN, ouais,
a réuni une équipe pour écrire une simulation du premier navigateur web qui tournait sur un Next. Bon, vaut mieux... Une vraie machine, mais c'est sûr que l'idée est sympa.
Multiplication des failles dans les logiciels libres depuis 12 mois.
Ah, c'est pas vrai.
Ça me fait quelque chose. La cause citée est un manque de financement de projets déjà gérés par des équipes très restreintes et souvent sur leur temps libre. On vous en a déjà parlé. Hein. Mmh. Mais bon, on peut aussi se demander si les failles ne sont pas aussi mieux détectées qu'avant, notamment grâce aux bug bounties. Donc, je ne suis pas convaincu que ce soit entièrement à cause du sous-financement. Mais c'est vrai que la question reste là, quoi.
Ça reste entier.
Ouais.
Eh bien, nous allons faire une petite pause musicale.
Et
nous nous retrouvons tout de suite après pour le sujet de la santé mentale en numérique. Waouh, Caravan Palace, miracle! Donc un nouveau titre de ce groupe, fameux groupe qui font de sacrées belles musiques. Je voulais vous en faire partager cette semaine ce petit morceau. Passons tout de suite au sujet du jour.
Oui, je vais vous parler du numérique au service de la santé. Parce qu'on vous parle régulièrement des dérives du numérique dans l'univers médical. Hein. Pourtant, il existe de nombreux exemples où l'informatique rend la vie bien meilleure. Puisque c'est la semaine d'information sur la santé mentale, voyons ensemble quelques-unes des possibilités offertes par l'e-santé. Mettre le numérique au service du bien-être de la personne, des pratiques médicales et médico-sociales, ça se fait depuis longtemps, même si l'évolution ouvre chaque jour de nouvelles possibilités. Déjà, la production de statistiques permettent depuis longtemps d'identifier des foyers infectieux, de mieux comprendre l'évolution des maladies.
Et non pas comme Google, hein.
Oui, alors Google s'y essaye, hein, avec leur prédiction des épidémies de grippe, oui. Tout ça. Ça marche plus ou moins bien, mais c'est un outil comme un autre. Alors on peut justement passer à la vitesse supérieure avec l'application des Big Data, justement, qui en fait fouille d'énormes quantités de données pour chercher des corrélations. Alors attention, corrélation n'est pas forcément causalité, mais ça peut indiquer des possibles liens entre des symptômes et des maladies, ou de possibles nouveaux traitements aussi. Par exemple, identifier un effet secondaire d'un médicament, on peut se dire que s'il entraîne ça, peut-être ça peut aussi soigner d'autres choses. Donc voilà, c'est aussi une possibilité. Il y a les objets connectés aussi, on vous en parle régulièrement des objets connectés et surtout de leurs failles. Pourtant, bien utilisés, ils peuvent être une aide précieuse. Par exemple, suivre notre activité physique ou, grâce à un pilulier connecté, prendre notre traitement correctement et à l'heure. En revanche, c'est aussi la porte ouverte à une aspiration des données par les assurances, priant de mieux nous connaître pour éviter de prendre le moins de risques avec leurs clients ou justement de ne pas prendre les clients à risque, ce qui est bien pour eux, mais moins pour leurs clients. Ainsi, on a déjà des exemples d'assurances qui espionnent les assurés par les objets connectés ou au hasard une montre podomètre qu'ils leur fournissent en échange d'une réduction des cotisations jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que justement ils font pas assez de pas par jour et du coup les cotisations elles vont remonter. Oh. C'est pourquoi il faut rester vigilant quand même, hein, mais pas non plus paranoïaque.
Mm-mm. Néanmoins, même si t'as pas de montre connectée, ton téléphone déjà est un bon mouchard.
Oui, bah oui, bien sûr. Et puis ça peut aussi servir de podomètre. Il existe des applications podomètre pour les téléphones, donc pas forcément besoin d'avoir une montre pour ça non plus.
Sur mon téléphone, c'est une application par défaut du système qu'on peut pas enlever. Hein. Je vais pas citer la marque, mais
voilà. C'est pareil pour le mien. Hein, et pourtant, on n'est pas de les mêmes familles. Hein.
Oui, oui.
Ah, c'est voilà. Donc voilà, faut pas rester paranoïaque, mais quand même, faut être sensibilisé à cette problématique. Tous les objets connectés ne sont pas forcément utiles non plus, hein. Certains sont vraiment juste des gadgets, d'autres apportent quand même un réel confort. Parfois cependant, on peut faire tout aussi bien avec la version non connectée et un outil aussi simple qu'un tableur. Ainsi, on peut aller régulièrement prendre sa tension chez le pharmacien, hein. La plupart ont un tensiomètre et ils vous prendront la tension très gentiment en vous laissant le temps de vous reposer, de vous asseoir, etc. Parce qu'il faut faire ça au calme normalement. Et puis de noter dans une feuille de calcul la date, on peut générer automatiquement toutes les dates avec la poignée de recopie, l'heure de prise de tension et puis les chiffres, hein, 14, 9 ou en dessous c'est mieux. Et puis on peut même faire un graphique et le montrer à son généraliste, donc il n'y a pas besoin d'application spécifique pour ça. L'avantage est que les données sont dans un format connu, donc réutilisable, contrairement à une application dont on ne sait pas comment elle stocke les données et comment l'extraire pour en faire autre chose derrière. Et pareil pour la prise de médicaments en fait, hein. Dans un tableur toujours, une colonne par médicament, on note la quantité qu'on a pris par exemple en milligrammes. Donc, ce qui permet d'indiquer si on a doublé la prise, si on a coupé le cachet. Par exemple, si c'est des cachets de 8 mg, on va noter 4 si on le coupe en deux. Et on fait une ligne par jour, toujours avec la date. Comme ça, on sait que chaque jour, on a pris notre cachet. Et comme ça, si on ne se rappelle plus, on dit « Est-ce que je l'ai pris aujourd'hui ?» On va dans le tableur et puis ça permet de recompter les pilules. Alors, ce que je fais, par exemple, c'est que sur des plaquettes de 10, par exemple, au bout du 10e, quand j'ai fini la plaquette, je mets la bordure en dessous de la cellule, comme ça je sais que j'ai fini la plaquette. Et puis la ligne d'en dessous, le jour d'après, on recommence une nouvelle plaquette. Et ça permet de savoir où on en est, est-ce qu'on a noté, si on en a noté un de trop ou un en moins, on a oublié, etc. Donc voilà, il n'y a pas forcément besoin d'une appli compliquée propriétaire non plus pour ça.
Et non, un simple tableur peut faire aussi l'affaire.
Et bah oui, des fois c'est les outils les plus simples qui sont les plus efficaces.
Le papier et le crayon.
Exactement. C'est du digital, là, pour le coup, s'il faut mettre les doigts. Chez le médecin aussi, hein, ça peut être une aide à la prescription, il y a la télétransmission, la téléconsultation. Le numérique s'invite aussi chez les praticiens de santé. Avec la rédaction d'une ordonnance sur ordinateur, ça permet par exemple de vérifier les interactions médicamenteuses avec d'autres ordonnances qu'il a déjà écrites pour éviter les erreurs de prescription. Et sur la même ordonnance aussi, hein, éviter de prescrire un truc qui fait monter la tension et puis qui la fait baisser en même temps, c'est un peu gênant.
Et en même temps, le pharmacien, il n'a plus besoin de déchiffrer l'écriture du médecin.
Et ben oui, ça permet aussi de l'imprimer du coup, avec une écriture infiniment plus lisible et ça évite les erreurs, parce qu'il y a des erreurs à cause de ça aussi. Des fois, ils lisent un truc alors que ce n'est pas ce qui a été marqué et des fois, ils donnent un médicament qui n'est pas prescrit, quoi. Et puis ça permet de l'envoyer par mail aussi, chiffré, tant qu'à faire, c'est mieux. À la pharmacie de son choix, et puis d'envoyer les demandes de remboursement automatique à la Sécu, bien évidemment.
Oh, mais ça serait génial si on n'avait plus besoin de papier.
C'est formidable, hein ? Ah ouais. L'utilisation de logiciels par les médecins pose quand même des questions, surtout lorsque, comme c'est le cas majoritairement, ces logiciels sont propriétaires, voire financés par de la publicité, comme c'est le cas pour la plupart de ceux qui sont utilisés.
D'ailleurs,
de la publicité pour des médocs, en plus.
En plus, et d'ailleurs, la plupart du temps, ce sont des clouds qui hébergent vos données.
En plus, personne ne sait où vont les données, etc. Pourtant, il y a des logiciels libres qui existent, hein, qui sont toutes utilisables, comme FreeHealth, qui sont faits en plus par des Français. Est-ce que vous avez déjà demandé à votre médecin où sont stockées vos données ? Parce qu'en fait, c'est vos données, hein, les prescriptions et tout, c'est vos données de santé.
Oui, bien sûr.
Hein, donc normalement, on devrait savoir où sont stockées nos données. Et puis en plus, sans parler de l'échange entre les médecins qui devrait être vraiment confidentiel. Alors il y a des solutions, hein, mais je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse GPG parmi les médecins. Parce qu'il y a des trucs qui sont des messageries spécialisées en fait, hein. Y a PicRib par exemple, mais bon, sauf que c'est une vraie passoire. Et le numérique avec internet permet également, grâce à la visioconférence par exemple, voire des équipements télécommandés, de faire des consultations à distance,
oui.
Qui justement ont été récemment autorisées en France pour apporter de l'expertise de spécialistes à des déserts médicaux. Alors ça ne remplace pas complètement, mais ça permet d'aider les praticiens locaux, à condition bien sûr que le désert médical ne soit pas aussi un désert numérique, sans aucun débit. Alors là, c'est mal barré.
On saluera par delà nos amis de l'ADN qu'on a reçus il y a déjà 3 semaines sur le déploiement de la fibre en Dromardèche.
Et oui, la fibre, ça peut aussi servir à faire des consultations à distance. Aujourd'hui, alors il y a la carte vitale, mais ça ne suffit plus. Il y a le dossier médical numérique. Alors il y a eu plein de projets successifs qui ont coûté très cher et qui n'ont pas forcément marché, mais peut-être que ça va finir par marcher. Et c'est devenu un enjeu pour permettre l'accès aux soins des personnes. Bien sûr, ça apporte un confort, hein, pour le patient, mais il faut quand même que le patient puisse garder le contrôle. Et encore une fois, ça peut éviter les interactions médicamenteuses à condition que les pharmaciens s'en saisissent et puissent l'utiliser. Et puis ça peut aussi faire des économies parce que ça permet d'éviter de refaire un examen qu'on a déjà fait et dont on a déjà le compte-rendu dans le dossier partagé avec le médecin.
Oui, surtout si tu n'as pas consulté le même médecin et que ton dossier médical reste toujours le même.
Eh bien oui, parce que puis des fois on oublie d'apporter les radios avec soi, etc. Donc c'est vrai que c'est pratique de pouvoir y accéder directement sans avoir à fouiller la paperasse, parce que des fois on a des pochettes épaisses de 10 cm.
Et oui, elle est loin. Donc, l'époque où tu allais chez ton médecin qui...
Avec le dossier sous le pot.
Ou alors qu'il avait des espèces de grandes armoires avec des tiroirs longs de 30 cm là où il tirait avec les ordres par ordre alphabétique. Ses patients et dedans il te prenait ta fiche.
Trouvez-moi le dossier de monsieur. Je sais pas, on l'a égaré.
Ouais, ça me rappelle que ce genre de choses dans les anciens locaux à Paris qu'avait visité Emma à l'époque où les dossiers médicaux étaient encore là.
Bah oui, c'est le problème des données, de la confidentialité, il se pose en physique tout comme en numérique aussi, hein, parce qu'il y a des disques durs qui se retrouvent aussi dans la nature avec des dossiers de patients. Il y a l'imagerie médicale aussi qui progresse, hein, le traitement d'images permet d'améliorer les images tirées des scanners et des IRM, et l'IA permet encore d'extrapoler encore mieux en éliminant les détails parasites pour visualiser des tumeurs minuscules auparavant noyées dans des artefacts produits par la technique d'imagerie, justement.
Que quand dans ma dernière radio de la main, je voyais des espèces de trucs qui brillaient dans mes os.
Je sais pas ce que tu mets dans tes os. Hein.
Je ne sais pas non plus.
T'as beaucoup de calcium, c'est pour ça.
D'accord.
Il y a un nouvel appareil qui justement donne des IRM, donne des clichés beaucoup plus lisibles. Alors il faut quand même garder en tête que les images produites sont le résultat de calculs, hein, c'est pas des images brutes, c'est des images qui sont corrigées pour être plus lisibles, mais en même temps, les calculs peuvent être incorrects. Donc on peut voir des choses qui ne sont pas là aussi. Donc il faut quand même avoir un certain recul et, pour pouvoir juger. C'est pour ça que les médecins doivent être formés aussi.
Ah, mais sans qu'il y ait des erreurs de calcul, on a aussi des problèmes. Par exemple, tout ce qui fonctionne par ultrason, on a des problèmes de rebond. Et les rebonds, si un rebond multiple revient, ça peut donner une fausse mesure de distance.
Par exemple. Alors après, il y a d'autres choses comme la gamification. Ça consiste à rendre des activités réparatives beaucoup plus ludiques, comme la rééducation physique ou cognitive, comme avec les jeux vidéo qui simulent des pratiques sportives pour faire bouger les personnes âgées. Il y a la réalité virtuelle aussi, il faudra qu'on en parle un peu plus en détail, pour lutter contre les phobies par exemple. Donc il y a en fait, on se rapproche de plus en plus de l'état qu'on ne supporte pas, avec une habituation progressive. Et puis dans tout ce qui est bien-être, il y a des applications pour la relaxation, même pour la méditation. Alors c'est sûr que c'est mieux avec un humain, mais bon, ça peut être intéressant. On peut aussi juste lire des MP3, hein, ça peut être bien. Il y a même des techniques plus poussées comme le biofeedback qui permet aussi de visualiser un état mental, donc de savoir dans quel état on est, et visuellement après de voir son évolution pour essayer de rapprocher d'un état qu'on veut atteindre.
Imaginez que vous voulez traverser la couleur rose.
C'est cela. Et voilà, donc on l'a vu, le numérique offre plein de possibilités pour la santé, mais il faut bien garder à l'esprit que les ordinateurs ne font que ce que les humains leur demandent.
Exactement.
Et si d'autres leur demandent mal ou pour de mauvaises raisons, ils feront pas ce qu'on espère d'eux. Donc c'est pour ça qu'il faut privilégier des acteurs de confiance, du matériel et du logiciel libre, et questionner nos utilisations.
Bien, merci Aimé Human, chapeau pour ce sujet magnifique. Franchement, là, je suis épatée. Oh, une petite pause.
Et j'ai pris du temps, hein, pour le faire.
Mais oui. Et puis, nous allons passer une petite pause pour nous retrouver tout de suite après pour l'agenda.
À tout de suite.
Donc c'était But It's Money. Je ne traduirai pas parce que nous ne sommes pas dans une.
On reste dans le médical, c'est anatomique. Hein.
Voilà, c'est anatomique. Alors But c'est fesses, Tits c'est téton et ouais. Money argent, voilà.
Ah ouais.
Oui, encore un clip bien déjanté que vous pourrez retrouver sur notre blog AAA.fr en lien. Nous passons à l'agenda.
Les sismes animés, donc c'est dans le cadre de la semaine de l'information sur la santé mentale, le Cause Toujours, café culturel associatif en collaboration avec l'Équipée, association sur les films animés, propose une soirée film d'animation. Donc c'est le 18 mars de 18h30 à 20h au Cause Toujours, 8 rue Gaston Ré à Valence.
émission de radio santé mentale à l'ère numérique. Suite à un micro-trottoir auprès des habitants, l'émission Hors des murs, réalisée à partir de témoignages recueillis auprès des habitants de la Valence. Donc il y aura effectivement ce mouvement qui sera le 19 mars de 10h à 10h30, 11h à 11h30 et midi à 12h30 sur Radio Méga.
La France aime le coworking. Le 21 mars, pour La France aime le coworking, la Forge Collective vous invite à pratiquer le télétravail toute la journée. Venez rencontrer les forgerons, boire le café ensemble, partager des expériences, collaborer sur des projets, mutualiser des moyens, économiser du temps et des ressources.
Tout ça.
Le 21 mars, la Forge Collective est gratuite toute la journée pour tous, indépendants, salariés, demandeurs d'emploi. Et ça se passe donc le 21 mars de 9h à 18h à la Forge Collective, 8 rue Baudin, Valence.
Libre Planète 2019, diffusion en direct à Montréal. Donc à Montréal, il y aura une diffusion en direct de l'événement Libre Planète 2019 qui lui se passe à Boston. Donc c'est sur inscription le 23 mars 2019 entre 9h30 et 18h15. Et le dimanche 24 aussi, c'est à l'école de technologie supérieure, pavillon A, 1100 rue Notre-Dame-Ouest à Montréal.
Soirée rétro-meding au Vintage Attitude 01, organisée par Gamestalgie. Donc venez prendre place au bar pour prendre part aux jeux de bornes d'arcade, de flipper, de stand de réalité virtuelle. Donc Gamestalgie sera là pour animer votre soirée de jeux vintage. Enfin vintage, alors vintage.
Ah oui, c'est vintage maintenant.
Oui, c'est ça. Donc le samedi 23, donc de 18h à 1h du matin.
Oh, les couches tard.
Au Vintage Attitude de Stagmar. Donc c'est à Bourg-de-Péage, 125 Allée de Bretagne.
Et oui, pour une fois qu'ils mettent des événements en avance, on peut les annoncer.
Alors, nous allons frotter la boule de cristal. Quel dit-elle, que dit-elle ?
Libriste, où il se trouve où ton site ? C'est dans le Var. Dans le Var ? Le département ? Non, dans le / Var.
Old school, ton Falcon à 4500 boules vient d'arriver. Bah quoi, les vieilleries, ça vaut de l'or, non ?
Nerds, de toute façon, les blagues sur Internet, c'est toutes les mêmes.
Demo Maker, il serait temps pour toi de préparer quelque chose pour la révision.
Codeur, tiens, j'ai sorti une nouvelle version. C'est optimisé ? Non, c'est aux petits oignons.
Électronicien, je reste au courant dans les cartes. Eh bien, merci amis d'auteurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout de cette émission. La semaine prochaine, retrouvez-nous pour un sujet sur un film.
Un film ?
Oui, oui. Alita. À très bientôt sur Radio Méga. Bye bye.
Bye bye.
Ciao, ciao.